Du coq à l'âme, c'est amplifier nos voix en racontant nos histoires depuis nos centres.
Je suis Oubida Fall et vous êtes dans le podcast « Quelques minutes à perdre ou à gagner », le podcast qui vous aide à tuer le temps. Rebonjour Florian, je suis heureuse de te retrouver dans cette deuxième partie. Et nous nous étions arrêtés la dernière fois sur l'épisode concernant Blondin. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ?
Merci de m'accueillir à nouveau. À partir de la mort d'Omar Blondin Diop en 1973, le tollé que ça suscite fait que le président Senghor est dans une impasse. Il ne saurait justifier la mort d'un intellectuel en prison, quand bien même il saurait le faire pour des anonymes. C'est quand même quelque chose à souligner. Et la pression internationale fait que, dans l'année qui suit, il libérera un certain nombre de prisonniers politiques en 1974, à la veille de la fête nationale du 4 avril, et actionnera une progressive ouverture démocratique contrôlée, qui marquera la naissance du Parti démocratique sénégalais, le PDS, en 1974, d'abord conçu comme un parti de contribution qui se retrouvait dans l'opposition, puis l'autorisation du Parti africain d'indépendance dans sa version légale, menée par Mahmoud Diop, qui, du fait de cette légalisation, a aussi perdu un certain nombre de camarades qui n'acceptaient pas les conditions de cette légalisation. Et puis finalement, le MRS de Boubacar Gueye qui sera autorisé en 78. Donc en l'espace de 4 ans, on a une progressive ouverture démocratique.
On l'a appelé, il y avait un nom, limité à 4 partis. Il y avait un nom très spécifique sur ce multipartisme-là. On avait 4 courants idéologiques.
Exact.
Et chaque courant idéologique devait être incarné par un seul parti.
C'est ça. Ouais. Donc c'est le multipartisme limité,
voilà.
Tout à fait, incarné par des courants de pensée.
Mm-hmm.
Des courants de pensée qui, par ailleurs, sont imposés par Senghor.
Oui.
C'est-à-dire qu'il imposait 4 courants de pensée, qui étaient le socialisme,
mm-hmm.
ou le social-démocratisme, incarné par l'Union progressiste sénégalaise, qui est devenue le Parti socialiste sénégalais. Le libéralisme, incarné par le PDS,
oui.
de Ablaye Wade.
Mm-hmm.
Le marxisme-léninisme incarné par le Parti africain d'indépendance, le PAI, de Mahmoud Diop,
mm-hmm.
et le conservatisme incarné par le MRS
mm-hmm.
de Boubacar Gueye.
D'accord.
À noter tout de même
mm-hmm.
que cette ouverture limitée
mm-hmm.
de la démocratie sénégalaise, ou en tout cas de la démocratie électorale mm-hmm. sénégalaise, s'est faite aussi pour deux raisons. Le président Senghor aspirait à un prix Nobel, dans la première moitié des années 70,
mm-hmm.
et la mort de Blondin, la répression des mouvements politiques
mm-hmm.
qui était un peu trop médiatisée, mettait en péril cette possibilité pour lui de décrocher un prix Nobel.
Mm-hmm.
D'autre part, pour pouvoir adhérer à l'international socialiste, donc passer de l'UPS au PS, il fallait faire des gages de pratique démocratique.
Mm-hmm.
C'est aussi ce qui a conditionné, non pas par bonne foi, mais par opportunisme politique, cette dite ouverture démocratique.
Et nous sommes arrivés, nous avons 4 courants.
On a 4 courants officiels.
Nous avons 4 courants officiels et nous nous apprêtons à entrer dans les années 80.
C'est ça.
Et où Senghor se décide un soir à quitter le pouvoir.
Hmm.
Et ce qu'on oublie souvent, c'est que Abdou Diouf n'est pas passé par des élections pour devenir président de la République.
Non.
Il y a des fois, on a un peu l'impression que l'histoire gague, bug et se répète.
C'est ça. Non, Abdou Diouf n'est pas arrivé au pouvoir par des élections. Je tiens quand même à souligner, avant d'arriver la période Diouf, que les partis politiques qui ne s'arrimaient pas à ces 4 courants de pensée, ou du moins qui n'acceptaient pas les termes posés pour la légalisation, ne se voyait pas autorisé.
Mais oui.
À l'image du RND, de
oui.
Charanta Diop.
Oui.
Puisque lui, Senghor lui avait proposé, prends le marxisme.
Mm-hmm.
Mais dis non, moi je ne suis pas marxiste. J'ai des marxistes dans mon parti, mais je suis panafricaniste. Mm-hmm. Et Senghor ne conférait pas au panafricanisme politique le label d'idéologie politique. Par ailleurs, au cours de ces années 70, bien que un certain nombre, une poignée de partis soient autorisés, la répression politique sévit sur les milieux de l'opposition clandestine. À l'image du parti Underjeff, fondé quelques années plus tôt, qui en 1975 subira, comme certains partis politiques de ces dernières années, des vagues d'arrestations sur leurs cadres, qui fait qu'en fait la direction a été d'une certaine manière décapitée. L'une des personnes qui a été victime de ces vagues de répression, c'est la journaliste Eugénie Lohaya-Hau, paix à son âme, qui a subi la torture en prison, qui a fait une fausse couche en prison du fait de sa détention, et qui raconte la dureté de ce régime. Elle entendait au commissariat central les cris de ceux qui subissaient la torture et des coupures d'électricité qui étaient dues au fait que il y avait des chocs électriques qui étaient en cours et qu'il y avait un survoltage. Ça, c'était les pratiques au cours des années 70, malgré la dite ouverture démocratique. Vient 80, Senghor se fait un peu âgé. Il a quand même passé 20 ans à la tête du Sénégal, sans aucun concurrent face à lui pour ses réélections. Avant cela, il avait été député pendant 15 ans, 35 ans quand même, aux plus hautes fonctions déjà de l'appareil colonial puis de l'État sénégalais. Il est temps de passer la main, mais pas passer la main à n'importe qui. Il faut passer la main à son dauphin. Un dauphin qu'il avait préparé pendant 10 ans, Abdou Diouf, son premier ministre depuis 1970. Un premier ministre qui avait été réinstauré dans sa fonction après l'écartement de Dia en 63. Dernier élément, là je fais un peu des zigzags entre 80 et les années 70.
Parce que ça correct, les deux se parlent beaucoup en fait.
Mais il faut qu'on parle de Jean Collin.
Mais c'est vrai qu'on a oublié Jean Collin.
Il faut qu'on parle de Jean Collin.
Est-ce qu'on va pas en parler quand on va parler des pratiques?
Ouais.
Ouais, on fait ça. Comme ça on continue la chronologie et puis après voilà, on revient dessus.
Donc Abdou Diouf arrive au pouvoir le 1er janvier 1980, après la démission de Léopold Sédar Senghor, qui est salué à travers le monde.
Mais oui.
Un président qui démissionne au cours de mandat,
exceptionnel.
Sauf que c'est une démission après 20 ans au pouvoir,
sans
concurrent, sans opposition.
Il n'a vécu la concurrence entre guillemets que 4 ans, et il a ouvert. Et c'est même pas qu'il l'ait vécu, il a ouvert selon ses termes, et il est parti selon ses termes.
Absolument. Et donc une démission.
Ça me rappelle quelqu'un.
Une démission qui s'est au profit. D'un dauphin qu'il a préparé pendant 10 ans, 2 ans dans son mandat, ce qui permet à son dauphin d'avoir 3 ans de mandat sans être élu. Intéressant comme pratique
démocratique. Très intéressant.
Abdou Diouf arrive donc au pouvoir sans être élu.
Et avec tout l'appareil qu'il lui a mis en place pendant 10 ans, et, on reviendra dessus.
Pendant 10 ans, et puis Abdou Diouf avait été, dès les premières années de l'indépendance, déjà un haut fonctionnaire. Il avait été, si je ne m'abuse, gouverneur.
Il a commencé gouverneur, il a été coopté chef de cabinet, directeur de cabinet, quelque chose comme ça.
C'est ça. Il a été ministre aussi.
Il a été ministre, effectivement.
Et puis, premier ministre pendant 10 ans.
Ouais.
Il arrive donc au pouvoir au début de l'année 81. Il a 2 ans pour préparer
ses élections de 83.
Son élection, 83. J'avoue ici que je maîtrise moins. La période après Senghor.
Exact.
Je ne vais pas m'inventer une casquette d'historien de toute l'histoire politique du Sénégal.
T'inquiète.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 83, c'est une élection qui est boycottée par l'opposition qui est désormais légale, notamment Ahmed Diouf, incarné par Landing Savané, qui boycottera cette élection. En 83, il y a également l'élection législative, qui permet au Rassemblement National Démocratique de Charenta Diop, désormais légal, d'avoir possibilité de représenter son parti au Parlement.
Siéger à l'Assemblée.
Le RND, il me semble, aura un parti, un siège
un
à son nom.
Un siège à l'Assemblée.
Mais Charenta Diop refusera de siéger à l'Assemblée nationale parce qu'il estime que le processus électoral a été frauduleux dès le début.
Oui.
Il y a 88, l'année blanche à l'université.
Il y a eu 89 avec ce qu'on a appelé en Wolof événement Nari, ça veut dire les événements qu'il y a eu entre le Sénégal et la Mauritanie.
Absolument.
Après, on a eu 92 avec la loi, le code électoral consensuel et la création du Conseil constitutionnel. En 93, on a eu l'assassinat de Maître Babacar Sey. En 96, on a eu des épisodes de grève étudiantine aussi pas mal. Là, je convoque ma mémoire. Là. En 98, on a eu le PS qui a été plus ou moins au bord de l'implosion parce qu'on arrivait à la fin du régime de Abdou Diouf. On a eu les scissions, on a eu le fameux congrès sans débat au niveau du PS. Et en 2000, on vit la première alternance démocratique. On vit la première alternance. Si tu veux reprendre à partir de là, c'est
oui,
toi qui vois.
Non, absolument, ouais. c'est ça. Et à noter que la majorité des scrutins ont été frauduleux.
Oui, ça...
88, 93.
On a eu la radiation des policiers en 87.
Puis la radiation des policiers.
Exact, on a oublié ça. Ok, continue.
Ablaouad arrive au pouvoir avec son Sopé en 2000, qui suscite un grand espoir, une grande espérance auprès notamment de la jeunesse. Oui. Après plus de 40 ans de règne socialiste, puisque c'est 40 ans officiellement entre 60 et 2000, mais les socialistes, en tout cas les ancêtres des socialistes, donc l'UPS et le BDS, étaient déjà à la tête de la représentation sénégalaise à l'Assemblée nationale française dès les années 50. Donc en fait, c'est 50 ans, c'est un demi-siècle de règne dit socialiste. Ablaouad arrive au pouvoir. Très rapidement, on se rend compte que c'est pas tout à fait le changement qui a...
On espérait, et du coup, en 2012, on a encore une autre élection. Je passe sciemment, parce que ça, c'est une histoire beaucoup plus contemporaine que la plupart des gens ont pu voir et sur laquelle on pourra revenir un petit peu plus tard. Parce que je veux vraiment qu'on retourne et qu'on puisse parler de toutes ces pratiques qui ont été mises en œuvre. Donc, en 2012, on a une nouvelle alternance qu'on a dû aller se battre encore pour pouvoir avoir cette alternance-là. On a dû faire face au ticket président-vice-président. Refuser ce changement, refuser ce vote auprès de l'Assemblée nationale pour au final accepter qu'Abdoulaye Wade se présente pour un troisième mandat. Il est battu par Macky Sall. Macky Sall arrive au pouvoir. On est en 2012, en 2024, le 25 février, on devait aller aux élections. Il n'y a pas eu d'élection. Voilà où nous en sommes. Et sans compter toutes les violences qui ont eu lieu ces deux dernières années. Et en vrai, quand on commençait cet épisode, l'idée, c'était de pouvoir justement parler de la construction de toutes ces violences-là. Parce que là, on est sur un terrain contemporain, actuel. Et là, on va repartir sur les pratiques, sur toutes les pratiques coercitives qu'on a pu voir ces 50 dernières années se déployer. L'idée étant de pouvoir les comprendre et de se rendre compte qu'en vrai, qu'il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester sur le statu quo. Ça veut dire que les pratiques, elles sont connues. Elles sont exercées, qu'on continue à les faire de la même manière avec, on va dire, un arsenal un peu plus évolué aujourd'hui et de pouvoir en tirer les leçons pour l'avenir. Donc, si on fait le rollback, on peut repartir maintenant sur toutes les pratiques qui ont pu être mises en œuvre et quoi d'autre? Les pratiques déjà, ça te va? On y va?
Mais qui suit, non pas l'actualité, mais le quotidien au Sénégal depuis 3 ans, peut voir que les pratiques sont multiples. Elles sont par la violence physique, la violence psychologique, la violence symbolique. Et toutes ces pratiques aujourd'hui, les arrestations à répétition, les morts, la perte de l'espoir, le ciblage de catégories de la société, puisqu'il s'agit quand même d'une guerre de classe qui a lieu aujourd'hui et qui est au fondement aussi de l'État, pas juste sénégalais, mais des États-nations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc ces pratiques sont multiples. On peut parler des dissolutions de partis, on peut parler de l'interdiction de manifestations, on peut parler de la violence symbolique de ne pas pouvoir s'exprimer librement dans son propre pays.
C'est ça.
La violence aussi de voir la mainmise d'une petite classe, quelques centaines de personnes qui... dès l'époque décidée de l'avenir de toute une nation. À l'époque aussi, dans les années 60, il y avait une autre violence symbolique très importante qui était la mainmise des intérêts, notamment français, qu'on continue à voir aujourd'hui, sans nul doute, avec des grandes multinationales françaises qui ont toujours mainmise sur un certain nombre de secteurs du pays. Dans les années 60, le Sénégal n'est... Je le considère absolument pas un État indépendant, c'est une néocolonie française qui, à partir des années 70 et des années 80, se dessert un peu de cet étau, bien que les intérêts de certaines firmes jusqu'à aujourd'hui sont encore très forts. Mais dans les années 60, pour prendre l'exemple de l'université, le recteur était français, l'université était encore affiliée à l'Académie de Bordeaux, les doyens des facultés étaient français, les professeurs, les enseignants étaient français, un tiers des étudiants étaient français, un autre tiers était africain sans nationalité sénégalaise et un autre tiers était sénégalais. On est donc, sans parler de ces des camarades africains, bon, qu'il y ait des camarades français, en soi, ça, c'est pas ça qui pose le problème, mais c'est l'architecture institutionnelle, administrative, qui fait que tout du haut jusqu'au dernier niveau de prise de décision était pour l'université géré par des Français, rémunérés donc par l'État sénégalais, du fait de, des accords de coopération qui étaient en vigueur à l'époque. Il y a également la prégnance politique. Dans tous les cabinets ministériels, il y avait la présence de personnalités politiques françaises qui sans doute est incarnée le mieux dans le contexte des années 70 par
Jean Collin.
Par Jean Collin, celui dont on ne dira pas le nom. Celui dont, dans les années 70 et même 80, lorsqu'on évoquait Jean Collin, c'était avec quelques frissons qu'on recevait ce nom-là, qui a été en fait dans les années 80 sous Diouf le numéro 2 de l'État du Sénégal, qui était secrétaire général de la présidence, et de manière effective, puisque Abdou Diouf a lui-même ensuite supprimé le poste de Premier ministre, Jean Collin était numéro 2 de l'État. Dans les années 70, Jean Collin est ministre de l'Intérieur, et c'est lui qui, symbole ultime, incarne la continuité de la police coloniale française, qui sévit dans un cadre nouveau, mais avec les mêmes pratiques que l'époque, qui coordonne certains commissaires français, qui sont aussi à la charge de séances de torture dans les prisons sur les opposants politiques sénégalais, et qui a en fait la haute main sur les prisons et sur la gestion du maintien dit de l'ordre. Voilà tout un tas de violences symboliques, pratiques, physiques, politiques qui sévissent, qui aujourd'hui prennent parfois des formes un peu différentes, mais qui en tout cas ces trois dernières années se sont abattues sans doute de manière aussi grave que sous Senghor, si ce n'est peut-être encore plus importante. Si on ne s'en tient que au bilan humain, le fait qu'on ait banalisé à tel point la mort de quelqu'un, c'est-à-dire qu'à chaque épisode de manifestation, aujourd'hui on s'attend à ce qu'il y ait des morts. On ne le souhaite pas, on le déplore, on est en deuil, mais on n'est pas surpris qu'il y ait des personnes qui soient tuées. Donc voilà, ça c'est un peu la continuité de ces pratiques-là.
On a noté dans les années 60, par exemple, quand on a dû préparer la venue de Pompidou au Sénégal, on a vu que dans les violences qui sont pratiquées, typiquement, il y avait l'expulsion. L'expulsion dans le sens, le déguerpissement. Il y avait le déguerpissement, c'est le terme le plus correct. Il y avait le déguerpissement de populations à faible revenu. Ça, ce sont des choses qui n'ont pas forcément changé. C'est toujours eux qui prennent en premier, c'est toujours eux qui sont relégués dans des zones qui sont difficiles d'accès, sans aucun assainissement, sans aucune commodité. Et on a vu pareil quand il a fallu aussi faire l'autoroute à péage.
Et le terre.
Et le terre. Et oui, pour prendre un exemple encore plus récent, ce sont des choses qu'on voit. On a vu les accusations typiquement de l'opposition. À chaque fois qu'on doit accuser l'opposition en disant qu'ils sont drivés par des forces étrangères, qu'il y a du terrorisme, qu'il y a X, qu'il y a Y. Et du coup, on fait en sorte que la population, elle, se concentre sur ces étrangers qui viennent voler le travail des Sénégalais, qui viennent X, qui viennent Y, au lieu d'adresser le fond du problème en lui-même, qui est que nous avons une absence de liberté, une confiscation d'un certain nombre de droits, X, Y, Z. Parce que c'est toujours beaucoup plus facile d'aller taper sur l'étranger, en fait, en réveillant les instincts xénophobes de la population, d'aller taper sur l'étranger qui serait là pour pouvoir profiter de tout ça. Et ce sont des choses qu'on oublie trop souvent, que c'est construit. C'est une volonté de faire en sorte. C'est comme à chaque fois que je regarde une émission, on dit « Ah, tel machin, ce qu'il dit, de toutes les façons, il n'est pas normal. Ce qu'il dit, il ne faut pas l'écouter. » Ou bien ce qu'il dit. On va utiliser un point qui va être un point sensible ou un point exact ou un point qui fait sens. Qui fait sens. Et autour, on va construire tout un narratif dessus et qui va faire qu'on détourne le regard sur les vrais problèmes et sur toute cette violence-là. Donc oui, je suis partie sur un tunnel, mais ce n'est pas grave.
Absolument, mais il faut un discours qui vise à légitimer les pratiques.
Exact, voilà.
Et exactement. C'est un peu ce triptyque que j'évoquais dans le premier épisode,
oui.
Qui est la consolidation d'institutions répressives, la défense de ces institutions par des pratiques coercitives, et la justification de ces deux premiers points par un discours. Et ce discours se retrouve effectivement jusqu'aujourd'hui. À l'époque, Senghor, en 63, parlait d'étrangers, chômeurs, qui étaient engagés dans les manifestations du 1er décembre 1963, qui avaient été sévèrement réprimées. En 68, Senghor parlait d'une opposition téléguidée de l'étranger, fabriquée par l'étranger et téléguidée depuis l'étranger. Et à la suite de la mort d'Omar Bongo Diop, en 73, suite aux réactions révolté et indigné de la jeunesse sénégalaise qui avait été accueillie aussi par une réaction indignée de la part d'une part de la classe intellectuelle française, Senghor parlait de téléguidés de la France, de fossoyeurs du Sénégal, traîtres à la nation, nihilistes à la solde de l'impérialisme international et mercenaires exécuteurs des basses œuvres de leur maître.
En 89, Abdou Diouf nous a traité de jeunesse malsaine. Je crois qu'Abdoulaye Wade a eu des mots aussi. Je ne me souviens plus. Je crois que Macky Sall nous a traité à un moment de oisiférant, plus ou moins.
Oisiférant, force occulte, terroriste.
On a eu droit un petit peu à la totale. Je ne sais pas. Je crois qu'on est arrivé des fois à des points où c'est... Bref, je n'ai plus assez de mots par rapport à tout ça. Je n'en ai plus. À moins que j'ai oublié quelque chose, moi je pense avoir fait le tour sur les points. J'en ai oublié des choses.
Oui, non, principalement je pense que c'est ça.
Ouais.
Ce qu'il faut, à mon avis, retirer de tout ça, c'est qu'il y a une longue histoire de la répression politique au Sénégal, qui à nouveau est l'héritage du colonialisme. Il ne faut pas
l'occulter.
Situer le Sénégal loin. Comme étant une création ex nihilo de 60, il y a une vraie histoire de la violence derrière, qui a été assumée et maintenue et consolidé par le régime de Senghor et ses successeurs, et qu'en réalité, pour faire un retour sur l'actualité, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade qui sont venus à la rescousse du poulain Karim Wade il y a quelques semaines, et des institutions incarnées par Macky Sall, qui se sont présentés comme pères de la démocratie sénégalaise.
Oui.
C'est un contresens historique, c'est évidemment pas le cas. La démocratie sénégalaise, ou en tout cas les acquis qui ont pu être arrachés, l'ont été par
des luttes.
Par des luttes sociales, politiques, culturelles. Et aujourd'hui, c'est ce qui est attaqué aujourd'hui. C'est un modèle démocratique qui n'en est pas un en réalité, mais c'est plutôt des acquis démocratiques, des libertés qui ont été arrachées, qui aujourd'hui sont attaquées. Qui aujourd'hui sont mises à mal. Et je pense qu'il faut effectivement retenir, c'est que il y a une mise en place d'institutions du temps colonial dont aujourd'hui l'État sénégalais demeure le légataire, l'héritier, et que sans doute ces pratiques sont vouées à perdurer s'il n'y a pas une réelle réflexion sur la nature de ces institutions et leur refondation.
Je crois que moi, comme beaucoup, oubliant très souvent que les droits acquis ne restent pas tels quels. Et peu importe la cause, hein, ils ne restent pas tels quels. Si on ne continue pas à les renforcer, si on ne veille pas à leur exécution, si on se retire en pensant que, étant donné que c'est fait maintenant, c'est bon, ben on se retrouve dans des situations un petit peu comme la nôtre aujourd'hui. Et je pense qu'après 2011, beaucoup d'entre nous avons fait ça. Peut-être que je le dis à tort, mais c'est l'impression que j'en ai, que beaucoup d'entre nous avons dit « Ok, d'accord, c'est bon, maintenant, on ne peut plus se retrouver dans une situation X, Y, Z. » Et on se rend compte que l'histoire bug se répète, elle se reprend, et ainsi de suite, c'est des cycles, et qu'il faut rester vigilant sur ces questions-là et continuer à élever sa voix, à s'indigner, à refuser et à aller chercher des droits, à consolider ceux déjà acquis, continuer à aller chercher de nouveaux droits parce que sinon, ben, on retourne en arrière tout simplement. Merci Florian d'avoir accepté de tuer le temps avec moi. J'espère que tu n'auras pas perdu de temps et qu'ensemble, qu'on aura gagné du temps. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Quelques minutes à perdre ou à gagner. Merci.